Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, voici donc ce que nous lisons à partir du verset 2. J'encourage Évodie et j'encourage Syntyche à être en bon accord dans le Seigneur. Oui, toi aussi, fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour la bonne nouvelle, avec Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Mais en tout, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Amen. Je vous invite à reprendre place. J'ai une petite image à vous montrer pour démarrer cette prédication. Je ne sais pas si vous connaissez cette illustration. Elle a été faite par Gunduz Agayev, un illustrateur originaire d'Azerbaïdjan. Alors, je vous conseille ou déconseille de voir un certain nombre de ses illustrations sur la validité de la guerre, notamment. Des images parfois assez rudes, mais qui font réfléchir. La guerre et ses conséquences, dont Muriel a évoqué un certain nombre de choses tout à l'heure, cette vanité qu'est la guerre dans le monde. J'avais, il n'y a pas très longtemps, une petite discussion avec mon garçon qui me demandait si un jour le monde avait connu la paix. Alors j'ai une petite question pour vous. Question pour un champion. Bon, il n'y a pas forcément 1 million d'euros à gagner, mais toute ma reconnaissance et ma gratitude si vous participez à ce jeu formidable. Selon vous, depuis 6000 ans, combien d'années le monde a connu la paix? Et pas le droit d'aller sur les Google, etc. Hein, j'en vois déjà, là. 6000 ans, combien d'années de paix a connu le monde? Vous avez le droit à 10 ans hein, de marge de manœuvre, en gros. Zéro? Ah non, alors réponse A, oui, j'aurais pu faire réponse A, réponse B. La réponse B? Oui. Pour la 50-50. Alors exactement 282 années de paix en 6000 ans. C'est pas trop mal, hein, certains diraient. Il y a eu en tout, selon les statistiques, hein, 14 351 guerres dans le monde depuis 6000 ans. Il y a eu 3 milliards de personnes tuées. 8000 traités de paix conclus et brisés. Et si on devait rassembler toute la richesse dépensée, entre guillemets, pour la guerre, ça équivaudrait à entourer la Terre d'une ceinture d'or d'environ 156 km de large et 10 mètres d'épaisseur. Incroyable, n'est-ce pas? Déconcertant. Mais après tout, moi, j'y peux rien. C'est vrai, je ne suis pas responsable des guerres. C'est ce qu'on pourrait se dire. On a bien sûr la réalité de notre vie quotidienne, mais sur le monde, sur la guerre, moi, j'y peux pas grand-chose. Et pourtant, Paul commence ici son exhortation un peu plus concrète suite à tout son développement théologique, sur un conflit. Un conflit entre deux personnes d'une église. Comme si quelque part, ce qui se passe dans le monde avec un grand M, commençait par la paix dans notre petit monde, ici-bas. Il y a peu de temps, je discutais avec une maman de l'école. Une maman qui était effrayée par la réalité de notre monde et qui se préparait à la Troisième Guerre mondiale entre choc des civilisations, choc des religions. Et elle dit, et toi Frédéric, toi qui es spécialiste des bisounours, qu'est-ce que tu en penses ? Mais je dis, très honnêtement, je pense que nous ne pouvons pas changer le monde, mais nous pouvons nous laisser changer par Dieu pour changer nos relations, changer nos vies, réformer et reformer nos vies par l'Évangile. Aussi, en un petit clin d'œil par rapport au dimanche passé, qui était le dimanche de la Réformation, je vous propose trois thèses. Trois thèses autour de cette vie décrite selon l'Évangile par Paul. Alors, vous allez voir, ce sont trois thèses qui sont assez catégoriques, un peu choquantes, un peu dérangeantes. La première thèse, c'est que la vie selon l'Évangile est une vie de relations apaisées. Deuxième thèse, la vie selon l'Évangile est une vie joyeuse. Troisième thèse, la vie selon l'Évangile est une vie sans inquiétude. Passons donc à la première thèse. La vie selon l'Évangile est une vie de relations apaisées. Autrement dit, ce n'est pas forcément une vie sans conflit, mais une façon de vivre nos conflits apaisés parce que nous avons conscience que le Seigneur est au milieu de nous. Vous avez remarqué que Paul commence cette partie un peu pratique, un peu maladroitement à première vue. Il n'a pas forcément suivi tous les cours de théologie pratique qui nous dit qu'il ne faut forcément jamais évoquer des noms de personnes en chair. Et Paul commence par parler d'Évodie, pas Élodie, hein, et Syntyche. Hein ? Il n'a pas suivi les cours de Paul, de Christophe, pardon. Je viens justement de faire ce qu'il ne faut pas faire. Dans une église, donc déjà à Philippe à l'époque, il y avait des discordes. Et il y en a bien des occasions de discordes dans notre église, dans nos églises. Des petits différends, des petits motifs qui sont parfois très valables, hein, très légitimes, de râler, de ne pas être d'accord. Ici, le conflit a lieu entre deux dames, Évodie et Syntyche. On ne sait pas grand-chose sur la nature du conflit. On aimerait bien le savoir, n'est-ce pas ? On aimerait bien savoir aussi qui a tort, qui a raison. Ça serait chouette. Mais nous n'avons aucune information sur la nature du conflit. Alors il y a deux raisons au conflit qu'il faut d'emblée exclure, me semble-t-il. La première, c'est qu'on ne peut pas reprocher à ces deux dames leur manque de maturité spirituelle. On pourrait dire, bon, elles sont jeunes dans la foi, pas très mûres, elles ne savent pas tout à fait ce que ça veut dire que vivre l'Évangile, alors bon, ça peut se comprendre, ces conflits. Objection, votre honneur, comme diraient certains. Paul rappelle le passé commun de ces deux dames et combien elles ont été précieuses dans son travail pour la bonne nouvelle. Elles ne sont pas donc des personnes nouveau-nées. Et elles ont certainement aussi une place importante dans la communauté de Philippe. Sinon, Paul ne prendrait pas la peine de les nommer ainsi. Donc, première raison à exclure, le manque de maturité spirituelle. La deuxième raison qu'il faut d'emblée exclure, c'est que ce sont des dames. Quand j'étais un peu plus jeune, je me souviens d'avoir travaillé dans un centre d'appel téléphonique. Et les gens se plaignaient parce qu'il y avait beaucoup de dames. Et me disaient « Oh, que c'est pénible !» de travailler dans un environnement de dames. Pardonnez-moi, mesdames. Alors, finalement, est-ce que Paul ne serait pas un tout petit peu misogyne, là, en mettant en avant le conflit entre deux dames ? Il y a bien des hommes qui sont en conflit aussi dans cette église de Philippe, non ? Objection. Paul n'est pas misogyne. Et j'ai encore des statistiques. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 16, Paul mentionne 17 hommes. Et 9 femmes. 17 hommes et 9 femmes. Mais il est remarquable que 7 femmes soient honorées sur 9 pour 5 hommes sur 17. Pardon, messieurs. Les pourcentages sont bien en notre défaveur. Autrement dit, ce ne sont pas deux raisons valables pour expliquer le conflit. Comme si Paul ne voulait pas que nous nous attachions à comprendre ce qui s'est passé, mais plutôt comprendre la façon dont il faut s'en sortir de ces conflits. Et remarquez la façon dont il le fait. J'encourage Syntyche et Évodie à être bien d'accord dans le Seigneur. Ça me rappelle cette petite histoire. Deux hommes étaient en conflit sévère, très très sévère. Ils n'arrivaient pas à s'entendre. Alors ils vont voir le sage du village. Et le sage entend d'abord la première version. La personne raconte sa version du conflit et qu'il a bien raison, finalement, d'être en conflit avec l'autre. Alors le sage répond, « Cher ami, vous avez tout à fait raison. » Le lendemain, le deuxième vient voir le même sage et lui explique qu'il a raison dans ce conflit. Il lui explique la nature du conflit, ce qui s'est passé et pourquoi c'est lui qui a raison. Alors le vieux sage répond, « Cher ami, vous avez tout à fait raison. » Alors la femme de ce vieux sage vient le voir après. Elle dit, « Mais écoute, là, il y a un problème. Ces hommes t'ont raconté deux histoires différentes et tu leur réponds la même chose. Vous avez tout à fait raison, tu leur dis. » Alors le vieux sage garde un instant de silence. Et regarde sa femme et lui dit, vous avez tout à fait raison. Comme si il y avait un élément de sagesse assez similaire à celle de Paul ici. Il ne les traite pas de façon inégalitaire. Il les encourage l'une après l'autre. Il aurait pu dire, c'est vrai, c'est quand même l'apôtre Paul. Allons, 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 mesdames, un peu de sérieux après tout. Vous êtes responsables d'église. « Bon, arrêtez de vous crêper le chignon. Moi, l'apôtre Paul, je vous interdis de vous crêper le chignon. » Mais non, parce que certainement dans ce conflit, il y avait des torts réciproques. Certainement, même la conviction d'avoir raison a peut-être bloqué le dialogue. Alors Paul les encourage à se placer devant le Christ, devant celui qui s'est abaissé plus bas que terre, tel qu'il l'a décrit au chapitre 2. Et là, face à la croix, face à cet instant particulier où le Christ a versé des larmes de souffrance, qui est-ce qui peut se présenter le torse bombé et dire « Moi, j'ai raison. Moi, j'ai raison. » Face à cette croix, chers amis, nous ne pouvons que plier le genou et voir en celui qui est à côté de moi, qui est aussi à genoux, un frère, une sœur. Paul les invite simplement à se placer devant le Christ, à devant ce qu'il a fait pour chacune et chacun d'eux. Et là, nous avons tout le message de l'Évangile, résumé dans cette façon de résoudre le conflit. Parce que qu'est-ce qui sépare l'homme de Dieu, d'un Dieu qui aime profondément ces hommes et ces femmes? C'est bien leur propension à faire le mal. Et pourtant, qu'est-ce que va faire Dieu? Il a fait de la médiation en envoyant Jésus-Christ. Comme Paul le fera ici, il va les inviter à se tourner l'un vers l'autre et s'ils ont des difficultés, alors aller voir quelqu'un qui va les aider à améliorer leur relation. Nous avons là tout le message de l'Évangile. Vivre l'Évangile même dans nos conflits. C'est un sacré encouragement, n'est-ce pas? Enfin, moi, je ne sais pas, mais moi, ça m'encourage. Parce qu'il y a une réalité, chers amis, une réalité qui traverse toute l'Église et toutes les Églises, c'est que nous ne sommes pas toujours d'accord les uns avec les autres. N'est-ce pas? Est-ce que nous sommes toujours à l'unisson sur tous les points de vue qu'il faudrait avoir dans l'Église? Oui ou non? Si vous dites oui, alors là je dis bravo. Mais je demande à vérifier en vous posant quelques questions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Première question, à partir de quel âge faut-il ou peut-on baptiser quelqu'un? Deuxième question, faudrait-il être baptisé pour jouer dans le groupe de louanges? Troisième question, comment comprendre le parler en langue? Quatrième question, qu'une louange qui honore Dieu? Et enfin, autre question, quelle est la façon la plus juste et la plus sainte de prier? À ces questions, il est bien des réponses différentes. Bien des occasions de discussion, parfois un peu fortes, peut-être même de discorde. Mais Paul nous invite, nous encourage au dialogue humble, les uns face aux autres. De reconnaître parfois nos torts, demander pardon. Mais par-dessus tout, il nous invite à nous placer devant la croix du Christ, à considérer ce que le Christ a fait pour nous, y compris lorsque nous avons envie de crier fort face à l'autre. N'oublie pas, avant d'aller vouloir taper sur ton frère ou ta sœur, de te placer devant la croix. Ça, c'est la première thèse. Un peu déroutante, n'est-ce pas? Et en préparant cette prédication, je me suis dit, oh, combien j'ai du travail. Deuxième thèse que nous donne Paul, c'est que la vie selon l'Évangile est une vie joyeuse. Le verset 4, que l'on connaît bien, dont on a entendu déjà le refrain dans notre série de prédications, « Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous !» On a l'impression d'entendre, vous savez, cette petite chanson du célèbre philosophe, « Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, chassez de votre esprit tous vos soucis, et youpi, prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez tous des ours bien léchés. » C'est Balou qui chante ça. Et lorsque l'on lit ce genre de verset, comme « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur », on a un peu l'impression d'être dans ce domaine-là. Un peu bisounours, quoi. Imaginez que vous allez voir quelqu'un qui a des difficultés et tu lui dis « Réjouis-toi, toujours, sois dans la joie, réjouis-toi, bon sang, au travail, en famille, réjouis-toi. » Facile à dire, mais pas facile à entendre. Dans un livre, Corrie ten Boom racontait un incident qui s'est passé alors qu'avec sa sœur, ils avaient été transférés au camp le plus terrible de Ravensbrück. Dans leur baraquement, ils ont trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et leur baraquement a été infesté de puces. Et ils ont lu un passage dans l'Épître aux Thessaloniciens qui dit à peu près la même chose et qui les appelle à se réjouir en tout temps, à prier sans cesse et à rendre grâce en toute occasion. Alors, Corrie a refusé. Et sa sœur a persévéré. Corrie disait, mais je veux bien rendre grâce parce que je suis en vie, mais alors pour les puces, non. Mais un petit peu plus tard, elle a finalement remercié Dieu, même pour ses puces. Parce qu'elle s'est rendue compte que pendant toutes ces années d'emprisonnement, elles ont pu ensemble prier, étudier la parole de Dieu, la Bible, assez paisiblement, parce que les gardes ne rentraient jamais dans les baraquements par peur des puces. Réjouissez-vous toujours. Alors c'est vrai, si on s'arrête là, si on s'arrête juste à ce refrain, on a l'impression d'être dans le pays de Balou et des bisounours. Mais c'est dans le Seigneur qu'il faut se réjouir. Dans ce Dieu qui est proche, c'est lui qui peut donner la joie, même dans les difficultés. Pas une joie qui serait un enthousiasme assez fugace, mais la profonde conviction que nous sommes entre ses mains et qu'il peut nous donner même la possibilité de nous réjouir, parce que la joie est d'abord fruit de l'esprit, fruit de quelque chose qui se passe en nous. Et dans ce « réjouissez-vous », en tout temps, il y a cette invitation finalement à cultiver notre relation à Dieu, à nous connecter, comme a dit Guillaume, à celui qui est la source de notre joie. C'est dans sa proximité que nous pouvons vivre cette joie. Troisième thèse, tout aussi perturbante. La vie selon l'Évangile est une vie sans inquiétude. Je reprends les bonnes paroles de Balou. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Le chemin vers le bonheur, un bonheur sans soucis. Mais il est où le bonheur, chantait un autre artiste. Et puis, Balou, on veut bien chasser nos soucis, mais pour les mettre où? Oh, on peut les mettre sous le tapis. Mais à mon avis, ils vont revenir. Et Paul propose une autre alternative. Il nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » L'action de grâce qui doit entourer nos prières. Remarquez que l'action de grâce ne vient pas après l'exaucement de la prière. Elle est ce lieu particulier qui enrobe notre prière. Parce que les motifs d'inquiétude, c'est commun de le dire, il y en a beaucoup. Que ce soit au travail, dans nos familles, nous avons bien des occasions de nous inquiéter. Mais ne pas s'inquiéter. Et ne s'inquiéter de rien, c'est quand même difficile à entendre. Parfois, il faut bien avouer que nous serrons bien fort nos inquiétudes. Nous les gardons pour nous, bien là. Comme ce pasteur qui racontait un jour un déménagement. Il avait gardé le dernier meuble, son beau bureau massif, très lourd. Et comme il poussait et tirait comme un forcené, voilà son petit garçon de 4 ans qui arrive et qui lui propose son aide. Alors, le pasteur accepte et l'enfant se met à pousser de toutes ses forces pendant que le pasteur tirait le bureau. Il pousse l'enfant et il grogne. Et après quelques minutes, il arrête de pousser. Et il dit, « Papa, pousse-toi, tu es dans mon chemin. » Alors le pasteur s'en va, et le petit garçon essaya de pousser le bureau comme il pouvait, et bien sûr, il n'a pas bougé. Et combien de fois n'agissons-nous pas de la sorte avec notre Père Céleste? Combien de fois n'essayons pas d'avancer dans nos vies en disant « Seigneur, tu es dans mon chemin. » Avoir confiance en Dieu, s'abandonner à lui pour tous nos soucis. C'est à la fois si simple comme discours, mais si dur à mettre en œuvre. Alors que nous sommes parfois si promptes à vouloir donner des consignes à Dieu. Des consignes qui ressemblent, pardonnez-moi, plus à des plans de montage IKEA qu'à un joli plan Michelin. Combien de fois n'agissons-nous pas de la sorte? Et puis alors, nous nous demandons pourquoi nous sommes si anxieux, pourquoi nous n'avançons à rien. Jésus, comme Paul, nous invite à une vie sans souci, pas une vie négligente, indifférente à la réalité, mais une vie dans la confiance, dans le Père Céleste qui sait toutes choses, un Père qui est proche et puissant. Et il nous invite alors à demander, 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 avec action de grâce, en reconnaissant le privilège de vous placer devant le Seigneur, en reconnaissant que vous êtes créature face au Créateur, mais qu'il est à la fois ce Dieu et ce Père qui prend soin de vous. Voilà donc le remède contre l'anxiété que proposent Jésus et Paul, la confiance en Dieu. Cette confiance totale qui libère et dynamise notre vie. Alors pour conclure, une fois qu'on a compris tout ça, ces trois thèses un peu perturbantes, une fois qu'on a compris combien Dieu est proche, combien il est proche même dans nos relations, même dans nos conflits, une fois que nous avons compris combien nous sommes aimés par lui, combien il attend que nous lui demandions, combien il attend que nous lui confions nos soucis, alors ça change tout. Alors cette paix qui surpasse toute intelligence peut nous garder. Comme cette histoire de Nicolas Ridley qui a été brûlé sur un bûcher à cause de son témoignage pour le Christ. La veille de son exécution, son frère a offert de rester avec lui dans la chambre de prison pour être son assistance et son confort. Mais Nicolas a décliné l'offre. Et il a répondu qu'il avait l'intention de se coucher et dormir aussi tranquillement que jamais dans sa vie. Parce qu'il connaissait la paix de Dieu. Il pouvait se reposer dans la confiance, dans la force des bras éternels de son Seigneur. Lui qui répond à tous ses besoins. Comme Nicolas Ridley, Paul nous invite à comprendre que la paix de Dieu peut garder nos cœurs et nos pensées si nous nous abandonnons à lui. Cette paix que Jésus donne n'est pas l'absence de troubles, mais plus la confiance qu'il est toujours là, jour après jour. Comme nous rappelle ce vieux cantique que vous connaissez peut-être, voici ce que Jésus pourrait nous dire ce matin. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche vers mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde.